intermondiale.
RCV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Bon lundi, j'espère que vous allez bien. C'est une grosse journée, une bonne grosse journée. En ce 15 avril, on s'installe ensemble dans l'heure CV. Mon nom est Pascal, je suis avec vous jusqu'à 11h. Pourquoi l'heure CV? Ben, Pascal CV, une heure ensemble, avant Marceau le midi. Hey, oui, quand je dis que c'est une grosse journée, c'est parce qu'il y a de la nouvelle en pas à peu près. Entre autres, l'affaire Stormy Daniels qui revient dans l'actualité. C'est le début du procès pénal de Trump. Une bonne première aux États-Unis. C'est important d'en parler parce que ça met la table aussi sur ce qui va se passer peut-être aux prochaines élections américaines. Trump, qui est là, tout feu, tout flamme, habillé de son éternel complet bleu, marin, avec sa cravate rouge, prêt justement à témoigner probablement devant les caméras aussi. Il y a tout un jeu de droit en arrière de ça aussi. Il y a ses avocats qui risquent d'être radis dans certaines causes dont il fait face à la justice, parce que justement, ben peut-être que des petites choses substantiellement hors du droit qui se passent dans tout ça. Mais c'est fort intéressant. C'est fort captivant. Et justement, pour en faire le point, aujourd'hui, on va aller parler à Valérie Beaudoin. Oui, experte en tout ce qui est politique américaine. Elle va nous adresser en fait un compte-rendu de la situation, ses observations et tout, un peu plus tard dans leur CV. Aujourd'hui, lundi également, c'est journée d'accueil de notre chroniqueur habituel, Frédéric Bérard. Avec lui, on va aller jaser de la dite attaque par l'Iran avec Israël. C'est important de le faire. C'est majeur comme événement. On va revenir également sur les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Voulez-vous vous séparer? Vous êtes-vous séparatiste? Est-ce que vous embarquez dans le bateau de Paul Saint-Pierre Plamondon comme quoi? Nous allons couler si jamais nous nous séparons pas. Et je vais explorer avec lui aussi tout ce qui est l'affaire de la fausse avocate. Oh mon Dieu Seigneur! Quand on parle de se faire leurrer, je pense que c'est par peut-être, je sais pas moi, le meilleur dossier qu'on peut avoir dans l'actualité, par des définitions, se faire leurrer ce qui s'est passé avec elle. Je vous rappelle, elle avait un compte TikTok, quelques réseaux sociaux aussi. Elle s'appelait la vraie fausse avocate, finalement. Elle n'avait pas d'études en droit, rien. Mais elle donnait des conseils, en fait, de droit. Elle se disait experte en tout ce qui est criminel et également familial. Puis elle demandait des dépôts de 400 à 500 $ Puis suite au dépôt, pour avoir ses conseils, elle disparaissait et bloquait les gens qui lui avaient donné de l'argent. Mais en plus de ça, en fin de semaine, vendredi, samedi, on a vu à quoi elle ressemble officiellement, parce qu'elle utilisait toutes sortes de filtres, mais de très bons filtres pour faire ces images qui paraissaient sur les réseaux sociaux et qui pouvaient faire l'envie de plusieurs hommes qui se faisaient aussi attraper dans son grand filet de fraudeuse. Hein? Et puis, ça fait l'actualité toute la fin de semaine. Je vais aller explorer ça aussi avec Frédéric. Est-ce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas en droit va finir par crouler avec justement ce genre de dossier? Est-ce que c'est dangereux finalement de s'afficher avec une fausse profession? Vous allez me répondre oui, mais à quel point? C'est ça qu'on va aller voir aussi. Puis est-ce qu'on est dans le danger justement de se faire avoir de cette manière-là dans le futur? Puis là, je parle pas juste si la femme elle est merveilleusement belle. Là. On parle aussi peut-être d'intelligence artificielle qui pourrait nous leurrer dans d'autres dossiers et pas nécessairement juste dans le dossier du « elle paraît super bien, elle pourrait m'aider, ça pourrait être mon avocate ». Et dans leur CV, notre fidèle tradition du début d'émission, le proverbe du jour. En étant intéressant quand même, je l'ai appris, moi, cette année, ce proverbe français-là. Comme on fait son lit, on se couche. Ouais, ou quand on fait son lit, on se couche. Ça dépend quel dictionnaire vous consultez. Mais ça veut dire quand on commence quelque chose puis on le fait, ben on y va jusqu'au bout. Donc, son lit, on se couche ou quand on fait son lit, on se couche. C'est le proverbe de la journée. Météo, ben on le savait, mais on s'attendait un peu plus de soleil quand même en ce lundi. On avait justement de belles températures jusqu'à 13 degrés, très, très printanier. Mais finalement, il va falloir faire avec quelques averses et ça a débuté ce matin. C'est de la brune à l'extérieur. Pour la journée, c'est alternance soleil-nuage par la suite. Et il y aura maximum de 13, comme je vous disais, minimum de plus 1. Pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux. Quelques averses toujours qui devraient débuter ce soir, cesser au cours de la nuit pour laisser quelques vents légers nous amener le soleil mardi, mercredi et jeudi, toujours avec des températures au-dessus de 10 degrés. C'est le printemps. C'est un peu plus vieux, c'est boiteux partout. Mais bon, le soleil sera là avec quelques percées aujourd'hui et définitivement dès demain, mardi. Les vulgaires machins, allez vous couler un café. Prenez ça, relax. On s'installe, la semaine commence. C'est l'heure CV avec Obsolète.
Avec Pascal CV.
De retour à l'émission, on va reparler de ce qu'on a eu comme spectacle hier au Centre Vidéotron, Queens of the Stone Age. Mais avant, il y avait The Struts. Et connaissez-vous le band? C'est comme s'il y avait plusieurs auditeurs qui étaient allés, qui avaient trippé, qui allaient entre autres pour The Struts. Puis j'ai trouvé qu'il manquait un peu d'engouement pour le band britannique. Extrêmement bon band britannique, disons-le comme ça. Mais pour The Queens of the Stone Age, ça, c'était plein, ma foi. Vous avez trippé sur votre spectacle, puis ça parut parce que c'était des vrais, de vrais, de vrais, de vrais fans en avant-plan. D'autres fans peut-être à l'écoute de l'homme qui vient nous rejoindre dans la conversation. C'est lundi. C'est à son habitude également de se brancher avec nous par Zoom. Je vois qu'il est au bureau aujourd'hui. Salut Frédéric Bérard.
Salut Pascal Caron-Vizina.
Tu travailles des fois, c'est ça, hein?
Oui, oui, la radio, c'est un plaisir. Toi, tu allies deux passions. Moi aussi.
Oui.
Mais oui, OK, j'arrête là.
Toi aussi, t'es avocat, tu travailles très fort, tu également es auteur, conférencier, chroniqueur ici à leur CV puis aussi ailleurs, mais quand même, nous, on te prend le lundi. Puis ce matin, c'est une grosse journée, je dirais, d'actualité. Là, j'en ai parlé avec les auditeurs un petit peu plus tôt, mais il y a beaucoup de choses à mentionner. Nous, on va faire un petit tour de ce qui est arrivé en fin de semaine ensemble, si tu nous le permets. Je sais que c'est certain que tu étais très à l'affût des tensions entre Israël et l'Iran. L'Iran qui a changé les règles du jeu dans cette guerre, finalement, entre Israël et la bande de Gaza, mais plutôt le Hamas. Là, allons-y comme ça. Mais il y a eu des attaques qui ont ébranlé un peu tout le monde. Des grands leaders de ce monde également qui ont commencé à parler beaucoup plus fort. C'est comme si c'est imminent qu'avec cette attaque de l'Iran, il y a un spectre de plus grande guerre que celle que l'on connaît. Est-ce qu'on aurait pu éviter tout ça? C'est une question, je pense qu'on n'aura pas de réponse, mais le drame de tout ce qui se passe là, avec Israël, bande de Gaza et la communauté qui finalement est sans dessus depuis cette attaque de l'Iran, je veux dire, ça amène rien de bon, là. Est-ce que tu le sens comme moi?
Oui, absolument. Écoute, on est... Ça prend pas la tête à Papineau là, pour réaliser que... Je ne vais pas faire paniquer personne, là, c'est assez anxiogène comme ça, mais la possibilité d'une prochaine guerre mondiale n'est pas exclue là, à 100%. Hein. Les pions s'alignent pour une claque assez mirobolante. On peut penser à l'Ukraine, la Russie, on peut penser à ce que tu viens de dire, mais on peut penser aussi à ce qui se passe à Taïwan entre les Américains et les Chinois. Ouais. Et là, ceci, tu posais la question, est-ce que ça aurait pu être évité? Puis là, je ne veux pas jouer au jeu du « Ah ben c'est la faute de X, c'est la faute d'Y », mais il y a quand même des responsabilités là-dedans. Pourquoi l'Iran a donné la claque qu'elle a donnée en Israël, puis c'est pas terminé, hein? Il y a encore des drones qui tombent.
Oui, mais c'est jusqu'à maintenant, plus de 200 drones et missiles vers Israël qui sont tombés. La plupart ont été interceptés, entre autres la France qui a participé à ces actions d'interception-là, mais quand même, il y en a qui se sont rendus, là.
Non, très clairement. Puis la réalité, c'est plate à dire, mais le gouvernement de Netanyahou, c'est un gouvernement dangereux. Et là, qu'on se comprenne bien, là, je ne critique en rien le peuple juif, je critique le gouvernement Netanyahou. C'est pas la même chose. Hein. On peut critiquer le gouvernement Trudeau sans critiquer les Canadiens. Même chose pour le gars avec les Québécois.
On peut critiquer Vladimir Poutine, mais il y a beaucoup également de Russes qui n'étaient pas en accord avec ce qui se passait pour l'Ukraine.
Et moi, j'ai de la peine pour mes amis juifs qui sont coincés là-bas, parce que tu remarqueras, hein, il y a eu une tonne de manifs contre Netanyahou, de plusieurs dizaines de milliers, des fois de centaines de milliers de personnes, pour faire en sorte de réclamer des élections pour pouvoir congédier du pouvoir Netanyahou lui-même. Et là, pourquoi je suis en train de te raconter ça? C'est que depuis le 7 octobre, oui, il y avait une réplique nécessaire face au Hamas, mais il y a toujours une question de proportionnalité ici, là. Et là, on a tellement dépassé le seuil de la proportionnalité que la Cour internationale de justice a dû expliquer à deux reprises qu'il s'agissait d'un génocide en cours, là. C'est sérieux, c'est grave. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, à un moment donné, il y a du monde qui se tanne. Puis malheureusement, en Israël, et si vous êtes en Israël, vous êtes un petit pois dans un univers très hostile. Et c'est pour ça aussi qu'Israël cherche à se défendre souvent, puis je les comprends de paranoïer. Mais ceci dit, là, qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est que Netanyahou est allé simplement trop loin et la communauté du Moyen-Orient est en train de se fâcher. Puis là, je ne suis pas en train de justifier les attaques de l'Iran, là, qu'on se comprenne bien. Je suis simplement en train de dire que s'il n'y a aucune limite à ce que fait Netanyahou, très nécessairement qu'il y a des gens qui vont s'allier contre lui à un moment donné. Et les États-Unis, puis moi, je leur en veux. Hein. Moi, j'en veux surtout à Biden. C'est lui qui a laissé faire Netanyahou depuis tout ce temps-là. Ils ont même réclamé, imagine-toi, un cessez-le-feu à l'ONU. L'ONU a réclamé un cessez-le-feu. Biden s'est abstenu, mais pour le reste, la résolution était claire. Qu'est-ce que fait Netanyahou? Il a levé son doigt du milieu, puis il dit, moi, je continue, puis j'en ai rien à foutre de votre cessez-le-feu. Or, qu'est-ce que Netanyahou a demandé en fin de semaine à l'ONU? Une rencontre extraordinaire du Conseil de sécurité pour qu'on aille la défendre.
Toi, t'aurais aimé que Biden se prononce beaucoup plus fort là-dedans dès le début et non laisser les choses aller?
Tu te rappelles, on en a parlé souvent depuis cette époque-là, puis moi, je suis toujours dit la même chose. Le jour où Biden dit à Netanyahou, là, mon tipit, ça va faire. Si tu continues, on te lâche. Netanyahou, il va arrêter drette là. Pourquoi? Parce que Netanyahou, sans les Américains, ça va vraiment mal finir.
À quoi ça profite pour Biden de ne pas intervenir? C'est toujours ma question, tu me connais, là.
Ben, écoute, là, je veux pas tomber dans les complots, puis je veux pas tomber dans les préjugés puis les caricatures, mais très certainement que des alliés du gouvernement Netanyahou sont très puissants aux États-Unis. Hein. Il y a une question d'électoralisme, il y a une question de ne pas se mettre à dos telle frange archipuissante de la société américaine. Il y a toujours eu des sympathies Israël-États-Unis, sympathies qui ont rien de reprochable, là, qu'on se comprenne bien. La seule affaire, c'est que là, mais puis, il ne faut pas oublier non plus que pour les États-Unis, avoir cette posture-là en Israël, c'est très pratique, hein, parce que ça leur garantit un pied à terre au Moyen-Orient pour plusieurs enjeux absolument névralgiques. Alors, à ce moment-là, c'est certain que tu ne laisses pas tomber un allié comme ça du premier coup. Ceci dit, quand tu as la Cour internationale de justice qui te parle de génocide, là, je pense que tu as un devoir de décence. Puis ton devoir de décence, c'est de dire, bon, ben, écoute, ça suffit, tu arrêtes, tu vas me cesser ce génocide-là tout de suite. Et pense-y, une résolution, un cessez-le-feu, Netanyahou s'en fiche. Et encore là, je le répète, je ne suis pas en train d'excuser d'aucune manière ce que fait l'Iran, mais ce que je te dis par contre, c'est que c'était assez prévisible que ça allait en arriver à ça.
Oui, puis le cessez-le-feu, Netanyahou s'en fiche pour plusieurs raisons, dont une qui est en fait que ça a servi à se réarmer du côté du Hamas quand on en a eu un. C'était une crainte en fait qui était vue par les experts internationaux et c'est un peu ce qui est arrivé. Mais dans le je m'en foutisme de Netanyahou, c'est très, très fort en fait. Et même que la déclaration iranienne par rapport à l'offensive qui est arrivée dans les derniers jours, on dit que c'est lié aux crimes répétés d'Israël, notamment l'attentat à la bombe du 1er avril contre le consulat iranien à Damas. Là, il y en avait un, puis finalement, eux se sont sentis aussi visés par ça. Peut-être qu'Israël a un peu peur de l'Iran en ce moment, parce qu'ils ont déclaré, en fait, qu'il n'y aurait pas nécessairement pour l'instant de vengeance de ce côté-là. Mais l'Iran a laissé entendre que s'il y avait une attaque contre eux par rapport à Israël, là, on allait réagir. C'est terminé pour eux. Ils ont dit, nous, on ne va pas réattaquer. Mais chose certaine, si vous répliquez à ce qu'on a fait, on va se protéger puis on va prendre les dispositions qui se doivent. Quelles sont-elles? On n'a aucune idée. Mais l'Iran avait prévenu Israël qu'il serait puni pour l'attaque contre son consulat à Damas. Est-ce une réelle position ou plutôt une réplique face à leur propre pays? Comment tu vois ça? Parce que je le voyais pas nécessairement comme on prend parti, mais plutôt, nous, tu nous toucheras pas, puisque tu as anéanti notre consulat à Damas.
Ben écoute, il y a beaucoup de, passe-moi l'expression, il y a beaucoup de bullshit hein, dans ces discours-là. Il y a de la propagande classique en matière de guerre, toujours la position victimaire. C'est pas moi qui a commencé, c'est lui, là, parce qu'au final, ça revient à ça. Hein. C'est ce qu'Israël dit du Hamas, c'est ce que l'Iran dit d'Israël. La réalité, c'est qu'on est en contravention au droit international, clairement ici. Oui, tu as le droit à une riposte, mais encore faut-il que ce soit réellement arrivé. Est-ce que tout ça est arrivé pour vrai en Iran? J'en ai franchement aucune idée. Est-ce que c'était vraiment la responsabilité d'Israël? Va donc savoir, mais on se construit des narratifs, des discours, puis pour justifier la suite. Or, moi, ce qui me fait peur, on te dit, bien franchement, c'est qu'il y a des questions à savoir, est-ce que l'Iran a réellement la bombe atomique? Et j'ai fait des petites recherches encore en fin de semaine. C'est pas clair à 100%. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que pas sûr. Mais ce qu'on sait, c'est que l'Iran, maintenant, a dépassé les limites permises d'uranium. Tu sais, l'uranium, là, t'as pas besoin de ça pour faire de la tarte aux pommes. Si tu dépasses les limites permises, ben, c'est pour créer autre chose. Et tu as remarqué aussi que l'Iran a dit clairement aux États-Unis, vous autres, mêlez-vous pas de ça. Et les États-Unis ont dit, OK, c'est bon, on s'en mêlera pas.
Parce que ouais, mais en même temps, Biden a dit, on va soutenir quand même Israël jusqu'au bout. C'est fou, ça.
Ouais, parce qu'ils disent, OK, on s'en mêlera pas, mais on va les soutenir. Tu vois, c'est quand je te parlais d'espèce de bullshit, c'est, ça veut dire quoi, ça, d'un point de vue concret, va donc savoir. Mais ce que je sais, moi, Pascal, c'est que les Américains, ben, ce que je pense, c'est que les Américains voudront pas aller se tailler avec l'Iran. Parce que si se tailler avec l'Iran, là, c'est les Russes qui vont débarquer, puis potentiellement les Chinois aussi. Ça commence à faire bien du monde. Puis tu te rappelleras peut-être, quand j'étais au Salvador, quand on faisait des chroniques ensemble, je t'avais dit que la Chine était en train de placer ses pions au Salvador un peu partout, notamment en construisant des grosses bibliothèques, la plus grosse prison du monde. Comme c'est quoi l'influence? Pourquoi la Chine vient se positionner là? Moi, je commence à avoir ma réponse. La Chine veut avoir elle-même un pied à terre en Amérique centrale, donc pas très loin des États-Unis.
Un peu comme le pied à terre qu'ils ont développé en Afrique, là.
Exactement. Et sachant que avec ce qui se passe à Taïwan, entre les États-Unis et les Chinois, moi, je pense que c'est un jeu de domino. Et là, le problème, c'est qu'il y en a un qui va donner la claque de trop, puis là, ça va débouler. Et écoute, on ne se le souhaite pas, mais il y a un jeu géopolitique qui se joue depuis déjà un certain temps. Il y a des pions qui se placent un peu partout.
Le spectre de tout ce qui est atomique, bombe atomique, j'ai l'impression que tout le monde en a peur quand même parce qu'on ne connaît pas la force de celle-ci. T'sais, j'ai l'impression que ça a toujours été plutôt une menace voilée, mais jamais nécessairement une menace qui sera mise à exécution parce que ça pourrait autodétruire le pays qui choisit de l'utiliser.
Ben oui, ça, tu as raison de le dire. On en parlait, tu te rappelles peut-être, quand la Russie a envahi l'Ukraine, la Russie, là, la bombe atomique. Il y en a qui disaient qu'ils vont faire sauter l'Ukraine. Bon, ce serait quand même une drôle d'idée de faire sauter un pays que tu veux conquérir. Là. Ça va te servir à quoi par la suite s'il n'y a plus rien dans le pays? Et l'autre chose, c'est que les Russes savent que s'ils lancent la bombe atomique sur l'Ukraine, la bombe atomique, elle va revoler de l'autre bord aussi. Donc, c'est toujours un jeu de chicken, là, en quelque sorte, là, qui va te choquer en premier. Et la communauté internationale se tient un peu, comment je te dirais, en haleine du fait justement de la menace nucléaire, parce qu'il y a un jeu de domino potentiel. Or, quand tu regardes qui est au pouvoir actuellement, notamment avec Poutine, Netanyahou, le Shah d'Iran, c'est pas super winner, là. Tu sais, c'est pas les chevaliers des chevaliers de Colomb, là. Tu sais, il y a des méchants psychopathes là-dedans. Donc, nécessairement, que je pense que les États-Unis doivent prendre leurs responsabilités et dire, regarde, là, il y a un cessez-le-feu. Il va vraiment avoir un cessez-le-feu. Donc, les États-Unis se doivent de calmer le jeu. Ce sont les seuls qui peuvent parler à Israël.
En terminant sur le sujet, là, par rapport à Israël qui a attaqué... l'Iran, pardon, qui a attaqué Israël, pourquoi le Canada ne se prononce pas plus là-dedans? On n'a pas la force de...
Écoute, malheureusement, je dois bien dire, je suis très nostalgique. Je ne suis pas nostalgique, moi, d'envie, jamais. Mais j'aime ma vie comme elle est, puis comme elle viendra. Mais politiquement parlant, je suis très nostalgique parce que je trouve qu'on s'en va tellement dans la mauvaise direction. Pourquoi je te raconte tout ça? Dans les fins des années 60, années 70 et début 80, Pierre Trudeau avait développé une politique étrangère. On peut le critiquer sur sa politique intérieure, mais sur la politique étrangère du Canada, Trudeau était indépendant des États-Unis. Hein? C'était le premier à avoir reconnu Cuba, le premier à avoir reconnu la Chine, dans le dos des Américains. Il avait développé des liens avec l'URSS, il avait développé des liens un peu partout en Europe. Bon, bref, Justin, je vais le dire gentiment, là, n'est que le chien de poche des Américains.
En fait, dans les dernières années, effectivement, on n'était plus le petit frère tannant, le petit frère suiveux. On avait une certaine identité à l'international. Je dis une certaine, mais elle n'était pas complète. Niveau force, économie non plus, elle n'est pas complète. Mais je suis d'accord avec toi. Mais ça augure en rien de bon pour la suite, là.
Non, puis c'est un peu l'enjeu. Puis moi, je vais te dire, Justin Trudeau a ruiné l'héritage de son père en matière de diplomatie internationale par rapport à notamment l'indépendance du Canada. Évidemment, tu as raison de dire, le Canada ne sera jamais un gros joueur en militairement. On n'est pas assez puissant, la force du nombre n'est pas là. Mais on avait on s'était donné un rôle de leader pour la paix bien souvent. Et là, franchement, fait juste regarder, la Chine nous a de travers, mais solidement depuis plusieurs années maintenant. L'Inde, c'est la même chose. La Russie, on n'en parle pas. Alors, ce qui fait que Ottawa ne peut plus jouer l'espèce de rôle d'ambassadeur, justement, pour cette même paix, parce qu'il s'est grillé partout, parce qu'il est vu comme le petit porteur d'eau de Biden et de Washington. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, qu'est-ce que fait Trudeau? Ben, tu remarqueras, quand on a dit la semaine passée, Mélanie Joly, qui est allée à Tout le monde en parle, elle dit, ben là, le gouvernement Netanyahu est problématique. Ça, elle a commencé à dire ça parce que Biden avait commencé à émettre des doutes. Mm. Mais si Biden il continuait d'y aller all the way avec Netanyahu, fais-moi confiance, le Canada suivrait bec et ongles.
Oui, puis là, honnêtement, pour la suite des choses, je trouve que l'Occident est en train de perdre énormément de plumes quand, si on avait été plus fort, si on était plus fort, on aurait un rôle important dans tout ce qui va se tramer. C'est comme si ça va énormément bouger de l'autre côté de l'océan. On aura les répercussions, on ne sera pas nécessairement dans le leadership de tout ça. Puis même, on n'aura pas beaucoup de pesant d'or, disons-le comme ça, dans la situation. D'une indépendance à une autre, on revient au Québec. On passe à un sujet qui fait beaucoup réagir ce matin. Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'est dit « Hey, on parle de moi. J'ai réussi à gagner des points. Pourquoi pas aller brasser le sac à poux puis peut-être en perdre? » Je dis ça parce que ça ne fait pas vraiment l'unanimité, sa prise de parole. À vous de juger, les auditeurs, 88-971-1021. Mais là, il a affirmé haut et fort au Conseil national du PQ que le Canada cherche à effacer le Québec et que l'indépendance, c'est la solution. Il dit avoir la certitude que de tenir un référendum serait probablement celui de la dernière chance. La chose que ces électeurs qui, peut-être, scrutaient une possibilité de voter pour le PQ aux prochaines élections, une bonne partie qui ne voulait pas que le référendum revienne dans l'actualité et hop, on a prononcé un discours à forte saveur souverainiste dimanche, hier, dans ce Conseil national-là, qui portait officiellement sur l'habitation à Drummondville. Là, c'était pas on rallie les militants, puis on ramène les points très sanguins du parti. Ça avait même pas lieu d'être, en fait. Là, s'il avait voulu gagner des points, c'était encore une fois éviter ce genre de sujet-là. Il est rentré dedans comme un camion dans un mur de briques.
Oui, puis j'ajouterais ceci à ce que tu as dit. Il a dit « c'est l'ultime chance ». Pourquoi? L'ultime chance pour ne pas disparaître. En d'autres termes, si on ne vote pas PQ puis si on ne vote pas oui au référendum, nous allons disparaître.
Le Québec en entier.
C'est moi, c'est là-dessus, Pascal, que là j'ai fait OK, wow. Là. Moi, Plamondon, je te dis, je le connais fort bien. J'ai travaillé avec lui chez Stackman Elliott pendant un bout de temps. Ce gars-là, c'était un fédéraliste à fond de la caisse, multiculturaliste. Tout le monde a le droit de changer d'idée. Là. Je trouve qu'il a changé d'idée vite pas mal, mais en tout cas, c'est pas grave. Ça peut arriver. Mais là, par contre, ce qu'il est en train de faire, c'est d'adopter ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement. La théorie du grand remplacement, c'est quoi? C'est une théorie qui a été développée en 2012 en France par un romancier qui s'appelle Renaud Camus, qui n'a aucune valeur scientifique. Le gars est sorti dans un quartier maghrébin, puis là, il est allé écrire « On est en train de se faire grand remplacer, il y a des Arabes partout. » Il y a une couple de coucous qui se sont mis à spinner ça, puis là, tout le monde riait d'eux. « Regarde les complotistes, regarde les racistes, ça ne tient pas la route. » Et ça a été démontré, notamment en France et ailleurs en Europe, que la théorie du grand remplacement, mathématiquement parlant, ne tient pas la route. En d'autres termes, c'est de la frime de A jusqu'à Z. La semaine passée, au Québec, sort une étude de l'OQLF. Il dit que depuis 15 ans, le français est en hausse au Québec. Yeah! On peut arrêter de stresser, on va continuer d'être vigilant, mais on peut relaxer un petit peu. On n'est pas en train de mourir d'un point de vue linguistique et donc culturel. Excellent. Autre affaire, en 1900, il y a 1 million de Québécois francophones. En 2024, il y en a 8 millions. Plamondon nous sort hier que si on vote pas oui, on va disparaître.
Mais qui conseille les politiciens en ce moment aux communications? C'est un flop total à la CAQ, c'est un flop total au PQ en ce moment qui était en remontée dans les sondages, mais ça se criait de toutes parts. Ne parle pas de référendum, ne parle pas de tout ce qui est un petit peu péquiste, corps et âme. Fais-toi oublier de ce côté-là, puis le souverainisme, on en reparlera une autre fois si tu veux être à la tête du Québec, et hop, on y va avec ça, mais très, très fortement.
Mais tu sais quoi, moi, que Plamondon parle de référendum, moi, ça me dérange pas, parce que si c'est ça son agenda...
Je suis d'accord avec toi. Je veux le savoir, effectivement. Je ne veux pas qu'on surfe là-dessus, je ne veux pas que ce soit une histoire de, de tramway avec Régis Labeaume ou de troisième lien avec la CAQ. Là. On ne veut pas encore
assume
ça.
Quoi, puis un politicien qui s'assume, moi, j'adore ça. Regarde, si vous votez pour moi, on va faire un référendum dans le premier mandat, puis c'est ça qui va arriver. Excellent. Là, maintenant, on prend une décision en tout état de cause.
Oui, au moins, c'est clair.
On ne sait pas. Puis le projet souverainiste, pour moi, c'est un projet légitime. On peut s'obstiner sur ce sujet-là. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée en 2024 avec le Brexit et autres? Oui, mais le reste que le projet en soi est une idée légitime. Par contre...
Jouer avec la peur de...
tu peux me vendre un projet, tu es en train de me dire que si je ne t'appuie pas, je vais mourir, puis je sais que c'est de la bullshit jusqu'à 100 000 à l'heure, ça se pourrait que non seulement que je décroche, mais que je devienne un adversaire de ton projet. Puis je pense qu'on n'est pas... Je ne suis pas tout seul dans ma gang, parce qu'avoir allé Twitter depuis hier, là... Il y en a plusieurs qui disent, OK, fait que là, Bocoté est rendu conseiller du PQ, c'est les mêmes lignes. Et puis imagine-toi, la conclusion du PQ dans son sommet sur l'habitation, c'est quoi? C'est dire, ah ben là, on va geler l'immigration temporaire. Ben c'est correct, mon Plamondon tira ramasser les fraises dans les champs cet été.
Ah non, mais ça fait énormément réagir. Il va falloir qu'on termine là-dessus, Frédéric Bérard, mais tout le monde se prononce, entre autres, les partis de opposés à celui du PQ. Jase, il y a un membre du cabinet de François Legault qui s'appelle Stéphane Gobeil qui dit ça c'est de l'arrogance ou de l'euphorie mal contrôlée. Le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, qui a déclaré, et je cite Paul Saint-Pierre Plamondon est de loin le chef du Parti québécois le plus radical. Il vient de perdre des plumes en fin de semaine avec sa position. Je ne sais pas comment il va se démêler. Chose certaine, effectivement, si c'est son but, si c'est son choix, si c'est sa visée, au moins, on aura été au courant, puis ce, avant qu'il soit élu, là, pour ceux qui veulent voter en conséquence.
C'est quoi, Tanguay a raison. La position de Plamondon, c'est la position de Bocoté. C'est une position qui est ultra-radicale puis qui n'a rien à voir avec le discours souverainiste habituellement. Aurais-tu imaginé, toi, un Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, René Lévesque, Bernard Landry, dire « si vous votez pour oui, on disparaît » À aucun bon sens, là. Puis ça ne tient pas la route, là. L'OQLF vient de le dire la semaine passée, là. Quelle étude il se base, Plamondon, pour dire des niaiseries du genre? Rien du tout, sinon qu'on fait appel aux craintes des gens. Puis c'est normal, hein, on est seulement 8 millions de francophones dans un océan occidental. Fait clairement que les gens craignent, de dire, OK, craignent par rapport à la sécurité linguistique et culturelle du Québec. Puis ça, c'est tout à fait légitime. Sauf que tu ne peux pas instrumentaliser ces craintes-là si tu balances des affaires qui n'ont juste pas d'allure.
Merci, Frédéric Bérard. On se reparle lundi prochain. Tu es avocat, auteur et chroniqueur. Vous êtes d'accord avec lui? 418-971-1021. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? 418-971-1021. Ou encore sur Twitch. ou tous ses réseaux sociaux. On se reparle la semaine prochaine. Bon début de semaine.
Salut.
Salut. À bientôt. Ça fait toujours réagir, mais plein de sujets quand même importants. Là, je veux dire, on était dans plutôt le débat, la chronique et autres, mais ça reste que ça donne le ton à cette chère semaine que nous vivons en avril, hein, 15 avril aujourd'hui. Et justement, parlons d'avril. C'est un mois important pour Boulevard 102.1 parce que c'est un concours exceptionnel qui est au bout de votre nez. Vous pourriez gagner un voyage complet grâce à Variété 2020. Variété 2020, c'est qui? Ben, c'est une entreprise qui nous fait faire des économies à chaque jour. Hein. C'est un magasin de surplus d'inventaire à Québec. Ça coûte moins cher pour des vêtements, des jouets, de la literie, de l'électronique. Allez voir leur page Facebook, allez les encourager parce qu'eux, ils nous encouragent et ils vous gâtent. On vous envoie en Californie pour le Rock'n'Ball Rock Blink-182 au Chase Center. 2 billets pour la tournée Réunion. Côté balle, 2 billets pour les Blue Jays contre les Giants au Oracle Park à San Francisco. Je vous rappelle, en juillet prochain, aussi rapide que ça, ça inclut le vol, l'hébergement, de l'argent de poche et ces activités-là. Si vous entendez une chanson de Blink-182, vous allez directement sur le blvd.fm section concours et vous notez l'heure à laquelle vous avez entendu la dite chanson. Il y a un finaliste annoncé chaque jour dans Gravel dans le retour et parmi toutes les inscriptions reçues, vous allez pouvoir peut-être le faire même 2 fois par jour si vous réussissez à saisir la chanson de Blink-182. C'est 2 participations permises par jour, par personne jusqu'au 26 avril. Bonne chance à tous. Ça se mérite un beau voyage comme ça, puis c'est en écoutant Boulevard 102.1.
Sur nos modèles 2023. Jusqu'à 10 000 $ de rabais sur le...
Spop.com.
RCV. Avec Pascal CV.
Oui, bien, le soleil est sorti à Le Bourgneuf. Par contre, aujourd'hui, il faut faire avec quelques averses prévues au radar météo. 13 degrés comme maximum. C'est printemps. Ce soir et cette nuit, c'est 1 degré comme maximum. Toujours des averses, mais demain, mardi, le soleil sera de retour majoritairement. Et ça, jusqu'à jeudi, avec du bon 12 degrés là, en journée là, pour presque les trois jours. Rapidement, en nouvelle, le quart des décès chez les jeunes adultes au Canada sont causés par les opioïdes. Une grande crise très importante, mais ce sont des décès prématurés qui ont doublé entre 2019 et 2021 au Canada, puis un décès sur quatre, en fait, chez les adultes âgés de 20 à 39 ans qui est attribuable aux opioïdes. C'est une nouvelle étude qui a été publiée aujourd'hui dans le journal de l'Association médicale canadienne. En 2016, bien, le nombre de décès par surdose accidentelle par des opioïdes était de 2470. Puis pour vous donner un ratio, là, 2019, c'est 3447. 2021, on est rendu à 6000 et plus. Puis c'est comme ça, ça monte continuellement. Donc, c'est un cas très important à étudier puis certainement, justement, à considérer. Autre chose à considérer, c'est le budget fédéral qui va sortir dans les prochaines heures. Et ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que des Canadiens fortunés devront payer plus. Ça, c'est sorti dans l'actualité. On dit que les plus riches sont dans la mire du gouvernement Trudeau pour qu'ils mettent plus d'argent dans la société. Le budget va être présenté demain. Là, je vous apprends rien. C'est la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui va le faire. Et on vise à aller chercher des nouvelles sources de revenus auprès des plus fortunés. Ça a été dévoilé aujourd'hui. Pas nécessairement en public, mais en coulisses. Puis on a été capable, par certains articles de presse, de le savoir. On veut s'assurer, et ce sont les propos du gouvernement, que les plus riches paient leur juste part. Et d'après les sources de Radio-Canada, il y a un petit nombre de particuliers qui seraient ciblés. Donc, on a vraiment le pointé des gens en particulier. C'est fascinant, ça. Et c'est pas la première fois là, que le gouvernement Trudeau vise les plus nantis. On l'avait fait dans le budget de l'an dernier. Ottawa avait relevé le taux de l'impôt minimum de remplacement, puis ça avait été limité davantage là, dans le recours excessif aux avantages fiscaux. Pour la tragédie des pompiers décédés à Saint-Urbain, rappelez-vous, ils tentaient d'aller aider des gens dans une inondation assez majeure du côté de Saint-Urbain. Il y a 10 jours d'audience publique qui s'amorcent. À partir d'aujourd'hui, on est là-dedans. Donc, les audiences publiques du bureau du coroner sur la mort de deux pompiers volontaires dans les inondations de Charlevoix. C'est au palais de justice de la Malbaie. On se rappelle que Régis Lavoie et Christopher Lavoie ont perdu la vie quand ils essayaient de venir porter secours à des sinistrés. Il y a également le conflit Israël-Iran. Ce n'est plus juste Israël, bande de Gaza, Israël-Hamas. Là, tout le monde tient son souffle en ce moment. Tout le monde retient son souffle. Et là, on parle du monde en général suite aux attaques de drones de l'Iran face à Israël. Ils avaient parlé d'une possible réplique face au fait qu'Israël avait détruit le consulat qui était dans la bande de Gaza, là, le consulat iranien. Et on n'y est pas avec les consulats, c'est comme si on attaquait le territoire en partie. Donc, pour l'Iran, on a attaqué le territoire de l'Iran. Donc, on avait à répliquer. Il y a beaucoup de drones qui ont été interceptés par l'international, entre autres par la France, parce qu'on ne voulait pas mettre encore plus de problématiques dans le conflit que l'on connaît en ce moment. Mais ça reste qu'on retient notre souffle parce que c'est vraiment important, l'implication de l'Iran contre l'Israël. Israël qui est soutenu par les États-Unis. On a parlé en long et en large avec Frédéric Bérard, si vous voulez le reprendre, mais c'est sûr que c'est un des sujets très chauds et importants de la journée. Un autre des sujets chauds et importants de la journée, c'est le procès pénal de Donald Trump du côté de New York. On en parle dans un instant, tout de suite après Jean Leloup, avec Valérie Beaudoin, experte en relations internationales et en politique américaine et relations américaines. Alors, on revient. Jean Leloup, Paradis City, dans vos oreilles, à Boulevard Saint-Germain.
Avec Pascal Cévé.
Je vous l'avais dit qu'on terminait l'émission avec nul autre que Valérie Beaudoin, qui est au bout du fil. Elle ne recule devant rien pour nous parler de ce qui se passe aux États-Unis. Elle est certainement très pertinente dans ce qu'elle raconte parce qu'elle est experte, je dirais, en politique américaine. Elle est au bout du fil pour nous jaser de cette journée très importante pour les États-Unis, le monde, mais également Donald Trump. Salut Valérie!
Salut.
Merci d'être présente ce matin dans l'RCV. Je pense que c'est une présence essentielle vu ce qui se passe là, du côté des États-Unis. On est en pleine campagne pour reconquérir la Maison-Blanche du côté de l'ex-président républicain Donald Trump, mais on est aussi en plein déboire de droit, en plein déboire de justice, vous le savez. C'est aujourd'hui le premier des quatre procès criminels qui sont engagés contre Donald Trump. Et là, il y a beaucoup de tentatives des avocats de Donald Trump pour essayer de sortir de ça, faire avorter, en fait, ses procès ou retarder le dit procès. Mais officiellement, aujourd'hui, l'affaire Stormy Daniels revient en gros plan sur tout ce qui est procès pénal de Trump. C'est une bonne journée où les Américains sont attentifs, non?
Oui, tout à fait, parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'un président ou un ancien président est accusé au criminel. Alors là, vraiment, aujourd'hui, on écrit une page d'histoire. Je ne sais pas si c'est dans un bon ou un mauvais livre, mais c'est quand même ça qui se passe. Alors oui, on va suivre le procès. Par contre, c'est pas un procès qui est télévisé, hein, parce qu'on parlait beaucoup d'O.J. Simpson la semaine dernière quand il est décédé. C'est pas un procès qu'on va pouvoir suivre comme ça chaque jour, mais avec la technologie et les journalistes qui sont là, de minute en minute, on va pouvoir savoir exactement ce qui se passe en salle de cour. Et à New York, il faut, dans le cadre d'un procès comme ça, criminel, que Donald Trump soit présent pas mal tout le temps. Sinon, s'il y a des exceptions, on peut l'accorder. Donc, il va être absent un peu, peut-être, de la campagne électorale en même temps. Entre toi et moi, il fait beaucoup de campagne lorsqu'il est devant un tribunal. Là, je pense que ça peut l'aider.
Oui, puis bon, il est arrivé ce matin, il a donné une conférence de presse dans son éternel, complet bleu marin avec sa cravate rouge. Il avait l'air déterminé, somme toute en forme. Pourquoi est-ce que c'est pas télévisé? Ça me fait penser aussi au procès de Johnny Depp et Amber Heard qui était télévisé, et puis finalement tout le monde s'improvisait comme commentateur dans le public. Il y avait des chaînes Twitch qui étaient devenues extrêmement populaires parce qu'on suivait ça en direct, on commentait. Pourquoi celui-ci n'est pas télévisé?
Ça dépend, mais il y a deux choses. Premièrement, ça dépend des États. Donc, dans l'État de New York, on ne peut pas avoir de procès télévisé dans ce contexte-là, à moins qu'un juge demande une exception et que ça soit accordé. Dans les procès aussi au fédéral. Donc, le procès qui va avoir lieu de Trump à Washington et celui en Floride. Celui en Floride pour les documents classifiés, celui à Washington avec le lien avec la tentative d'insurrection et tout ça. Ça non plus, ça ne peut pas être télévisé parce que c'est un procès au fédéral et c'est ça la loi. Par contre, en Géorgie, à moins d'un revirement de situation, si le procès a bel et bien lieu, c'est filmé. Alors, ça dépend vraiment des États, comme par exemple en Californie, il y a beaucoup de procès qui sont télévisés. C'est ce qui explique qu'il y en a certains qu'on peut voir en direct et d'autres, vraiment, on peut avoir seulement les conférences de presse à l'extérieur, les photos peut-être officielles et ce qu'on appelle, là, je cherche le mot, là, mais les gens qui font les dessins, là, les sketch artists, qu'on dit en anglais, qui peuvent nous donner une petite idée de ce qui se passe dans la salle de cours.
Puis de peut-être redessiner les expressions faciales ou encore les gens qui y seront présents. Peut-être faire une petite histoire de ce qu'on est en train de débattre aux États-Unis aujourd'hui par rapport à Stormy Daniels.
Oui, parce que en fait, on remonte à l'élection 2015-2016. Donald Trump affronte Hillary Clinton. Déjà là, l'opinion publique par rapport à son traitement des femmes est entachée. Il y a eu cet enregistrement d'Access Hollywood, où je ne vais pas répéter exactement les paroles, mais ça commence par « grab them by the ». Alors, déjà là, il veut pas avoir un autre scandale. Stormy Daniels, qui, elle, dit avoir eu une relation avec Donald Trump alors qu'il était marié. On veut acheter son silence. On lui donne 130 000 $. On donne aussi un autre montant à une autre, je pense que c'était une playmate dans ce cas-là et non une actrice de film pour adultes. Je vais les définir comme ça.
Stephanie Clifford.
Exactement. Alors là, c'est vraiment Stormy Daniels qui nous intéresse parce que ce paiement-là a été, selon les procureurs, camouflé dans les livres comptables. C'est-à-dire que l'avocat de Donald Trump à l'époque, Michael Cohen, qui était son homme de main, a payé, a donné le chèque à Stormy Daniels, mais après ça, il a été remboursé de différentes façons. On disait que c'est des frais liés à l'élection, des frais d'avocat et tout ça. Mais on s'entend que légalement, payer un pot de vin, tu as le droit de donner un chèque pour acheter le silence. C'est la façon que tu le sais, que tu le caches, qui peut être un crime. Dans ce cas-ci, on dit qu'on a falsifié des documents officiels de la compagnie, par exemple, de la Trump Organization. Il y a 34 chefs d'accusation. Alors, je répète, c'est pas le paiement qui est le crime, c'est vraiment le fait de l'avoir camouflé dans les livres comptables. Donc, c'est pas un procès où c'est clair comme un crime, là, par exemple, les documents classifiés là, qu'on a vus dans sa salle de bain, qu'on a vus un peu partout à Mar-a-Lago. Ça, j'ai l'impression que pour le public, c'est quelque chose de beaucoup plus substantiel, tandis que là, on va être plus dans la technicalité dans ce procès-là. Mais on va quand même entendre Michael Cohen. On risque d'entendre Stormy Daniels aussi. Alors, ça va peut-être colorer un peu le procès.
J'ai une question quand même technique parce que j'ai l'impression que les gens ne font pas de différence entre le fait, les livres comptables de qui dans ce cas-ci? De l'entreprise de Trump où on a caché cette information ou les livres comptables finalement en politique? Parce que sinon, est-ce que ça peut être une affaire qui est jugée au privé et finalement c'est l'entreprise de Trump qui pourrait dépenser comme il souhaite?
Non, parce que quand c'est vraiment des dépenses électorales, il y a des lois électorales. Alors, tu peux pas décider de mettre n'importe quoi dans tes dépenses. C'est comme ici, si on décidait de frauder, qu'on avait mis n'importe quelle très grosse dépense dans nos impôts. Par exemple, on pourrait être accusé au crime. J'en ai un exemple, je sais pas comment fonctionne la loi au niveau fiscal au Canada, mais quand même, on peut pas dire qu'on repaye quelqu'un. Si on falsifie des documents, qu'on ne dit pas pourquoi on donne cet argent-là, ça devient une fraude. Il y a eu des procès de Trump au civil. C'est pour ça peut-être qu'on se mélange. Là, il y a un procès avec la Trump Organization et Donald Trump et ses enfants. On avait falsifié d'autres documents, mais ça, c'est par rapport à la valeur des immeubles. Je sais qu'on se perd. Il y a tellement de procès. Mais dans ce cas-ci, vraiment, si c'est vrai, il est reconnu coupable d'avoir falsifié ces documents-là. Il peut même avoir une peine de prison. Est-ce que je pense que Donald Trump, dans ce dossier-là, va faire la prison? Pas vraiment. Il y a quand même pas d'antécédents, son âge et tout ça. Mais si l'antagoniste, il insulte le juge comme il le fait depuis des semaines, peut-être que c'est pas la bonne technique en sachant que c'est lui qui va lui donner sa sentence qu'il est reconnu coupable.
Ça pourrait jouer contre lui. Fascinant quand même de savoir qu'une telle pratique n'est pas illégale comme acheter le silence de quelqu'un. Ça me fascine encore en 2024. On aura le temps d'en reparler. Mais je voudrais finir avec toi, Valérie, sur quelque chose. On a parlé la semaine dernière d'avocats face à Donald Trump. Il y a plein d'avocats qui ne veulent pas faire affaire avec Donald Trump. Il y a plein d'avocats qui ne se font pas payer par Donald Trump, qui ont encore des factures qui s'empilent sur les comptoirs. Comment est-ce qu'on explique qu'un avocat défend Donald Trump, en plus quand on apprend qu'ils risquent finalement de perdre leur droit d'exercer leur métier pour lequel ils ont étudié longtemps?
Bien, ça dépend. T'sais. Ils peuvent perdre leurs droits s'ils font quelque chose d'illégal. Hein. S'il y a quelque chose qui peuvent leur nuire par rapport à leur barreau. Mais juste de défendre Donald Trump, ils ont le droit de le faire. Il y en a qui le font pour se dire « Hey, je vais passer dans les livres d'histoire. » Justement, par exemple, je refais mon parallèle avec O.J. Simpson. Bien, le Dream Team, à l'époque, tous les avocats qui avaient participé à son procès sont devenus célèbres. Oui. Alors, il y a un côté comme ça de célébrité parce que Donald Trump, qui est un politicien maintenant, c'est une célébrité aussi. Ça va être suivi à ce côté-là, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas le faire parce que, justement, Donald Trump n'est pas contrôlable. Il n'écoute pas les conseils de ses avocats. Parfois, on lui dit de se taire parce que ça va lui nuire. Il décide de parler quand même. Donc, pour un avocat, ça devient extrêmement difficile de travailler. Et après ça, si c'est le client qui a, disons, nuit à la cause, eux, ils perdent. Ça ne donne pas une belle opinion de leur travail d'avocat. Il y a aussi le fait que Donald Trump a une réputation de ne pas payer ses frais d'avocat. Je sais qu'il en a payé à date 100 millions, mais il y en a qui sont toujours des frais impayés. Par exemple, à Rudy Giuliani, qui était son ancien avocat, qui lui est accusé dans d'autres dossiers, elle ne voulait pas le payer en disant qu'il n'avait pas gagné. C'est comme s'il lui avait donné des garanties qu'il allait gagner. Alors, lui, Rudy Giuliani a dû vendre des propriétés aussi pour payer ses propres frais d'avocat. Alors, c'est une espèce de cercle sans fin. Alors, je pense qu'il y a ça aussi. Et on voit que beaucoup des avocats et avocates, dans certains cas, qui sont là un peu pour le spectacle, qui vont donner des entrevues, qui font des erreurs de procédure selon des avocats américains. Donc, c'est pas nécessairement les plus compétents qui vont être là. Peut-être qu'il y en a que oui dans certains dossiers, mais il y en a d'autres qui vont vraiment être là pour être le visage de ces procédures-là et pour reprendre l'expression préférée de Donald Trump, de la chasse aux sorcières.
Qu'est-ce qu'on a surveillé en terminant aujourd'hui dans ce procès pénal de Trump? Et qu'est-ce que toi, tu vas vouloir faire ressortir comme point?
La sélection des membres du jury. Alors là, vraiment, le juge a dit qu'il n'allait pas se retirer du procès malgré toutes les allégations de conflit d'intérêts qu'ont fait les avocats de Donald Trump. Il dit là, c'est juste pour ralentir le processus. D'ailleurs, ils ont tenté à 4 reprises la semaine dernière de faire soit avorter le procès ou le déplacer en vain. Alors aujourd'hui, c'est ce que le juge a mentionné d'entrée de jeu. Les membres du jury ont rempli un questionnaire, les membres potentiels, pardon, et on doit en sélectionner 12. On pose des questions, par exemple, avez-vous déjà participé à un rassemblement pro-Trump ou anti-Trump? Quelle est votre opinion de Donald Trump? Où consommez-vous vos nouvelles? On ne demande pas s'ils sont républicains ou démocrates, mais on peut imaginer que ça va être assez dur de trouver quelqu'un qui semble neutre dans un procès aussi médiatisé avant même son début. Et Donald Trump, ce n'est pas notre voisin. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est qui sur la planète, sont assez rares. Alors, imaginez encore à Manhattan où on va avoir ce procès. Donc, il débute aujourd'hui. On prévoit environ 6 semaines pour les gens qui veulent suivre ce procès-là. les maniaques un petit peu comme moi, là, on va être plus à la
tête. Et on se reparle. Merci beaucoup, spécialiste de la politique américaine que l'on connaît, nous aussi, pas mal, beaucoup au Québec. Valérie Beaudoin, merci d'avoir été avec nous.
Merci, bonne émission.
Une bonne journée. C'est tout ce qui... en fait, ça conclut leur CV. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous autres, on reste ensemble dans Marceau le midi. Yannick s'en vient, mais chose certaine, on se revoit aussi à dimanche, hein, Pascal. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans mes écouteurs, je m'excuse, c'est de la régie interne, mais ça m'a déconcentré. Non, pas à dimanche. Bon lundi. À demain 10h pour leur CV et à tout de suite pour Marceau le midi. Yannick qui s'en vient avec Tom Gauthier en studio. Voilà, je les enlève, je les remets dans un instant. Puis merci d'avoir été là.